patrimoine.
Saint-Cernin se dote d'un nouveau trésor. Une rose vient d'éclore sur la façade occidentale, longtemps inachevée, de la basilique toulousaine, plus grand édifice roman de France et l'un des plus importants d'Europe.
Le soleil se couche et sa lumière inonde de couleurs l'intérieur de la basilique Saint-Cernin et son autel. Cette image qui n'était qu'une fiction est devenue réalité avec l'installation récente d'une rose imaginée par Jean-Michel Autoniel et réalisée par les Ateliers Loire. Placée sur la façade occidentale de cet édifice, construit à partir des 11e et 12e siècles, cette œuvre abstraite trouve des échos dans le sacré et dans le travail de l'artiste qui a collaboré avec les verriers pour retrouver la qualité du dessin à la main, la sensualité, la richesse et la vibration des couleurs en les associant au mieux à celles de la brique. Ce vitrail contemporain voulu par Jean-Luc Moudinque doit permettre au soleil de frapper l'autel le jour de la Saint-Cernin tout en protégeant le grand orgue de la chaleur avec l'intégration d'un double vitrage. L'artiste s'est également appliqué à ce que cette rose soit visible depuis l'extérieur grâce à une épaisseur plus importante du plomb étamé qui accroche la lumière. Des travaux sur plusieurs siècles. L'idée de construire une belle église pour honorer Saint-Saturnin, premier évêque de Toulouse, émerge vers 1070. La façade occidentale constitue la dernière tranche des travaux après 1200. Mur pignon en brique, cette entrée est moins travaillée que les autres. On trouve tout de même un ample portail, comme on le voit sur le dessin proposé sur cette page, orné de chapiteaux et surmonté de 5 arcades moulurées en pierre, et cette grande rose épurée que l'on voit aussi sur le dessin, d'un diamètre de 5,50 m, dont les remplages auraient été détruits par un bombardement au XVIe siècle. Des bas-reliefs en marbre, que l'on voit ici en photo, dont certains sont conservés au musée des Augustins, ont un temps complété l'ensemble. Resté longtemps inachevé, le massif occidental présentait même une dissymétrie, comme on le voit sur le dessin présent sur ces pages, avant que la hauteur des deux pans entourant le portail soit réalignée lors d'une campagne de restauration entre 1927 et 1929. On peut d'ailleurs observer un contraste de couleurs dans les briques. La dernière touche d'un ensemble. Avant cela, sous l'impulsion de Prosper Mérimée, alors inspecteur général des monuments historiques, la basilique Saint-Cernin est classée monument historique en 1838. Il propose également à l'architecte Viollet-le-Duc pour mener des travaux de restauration de l'ensemble de l'édifice qui démarre vers 1860. Sur la façade occidentale, il imagine deux tours, comme on le voit ici sur le dessin, qui ne verront finalement jamais le jour. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, un travail de dérestauration de l'œuvre de Viollet-le-Duc fut même entrepris pour retrouver l'esprit médiéval. Les portails, modénatures et sculptures ont été dégagés d'une gangue de badigeons ocre posée par Urbain Vitry au XIXe siècle. Aujourd'hui, ce nouvel élément décoratif vient parachever l'évolution complexe de la basilique toulousaine et s'inscrit dans le vaste programme d'aménagement du Grand Saint-Cernin consacré à la rénovation de l'édifice et du quartier. Bibliographie et sources, entretien avec Jean-Michel Autoniel, Sébastien Vessière, Jacques Sirpinski, Saint-Cernin, joyau de l'art roman, édition Loubatière, 2006. Kitry et Daniel Caz, Visiter Saint-Cernin, édition Sud-Ouest, en 2000, Saint-Cernin de Toulouse, Trésor et métamorphose, deux siècles de restauration, 1802-1989, Toulouse-Musée Saint-Raymond, 1990.
Comme on le voit ici en illustration sur cette page, en 1118, la mort du chanoine Raymond Guérard, instigateur des travaux, interrompt l'élévation de la façade. La pierre blanche utilisée dans la partie intérieure de l'édifice témoigne de cette interruption non structurelle. Cette pierre fut délaissée lors de la reprise, après 1200, pour privilégier la brique plus modeste.
La rose dans le temps. D'abord simple oculus non vitré, destiné à laisser entrer un peu de lumière, baie circulaire simple, puis garnie de découpes de pierre, la rose se généralise avec l'architecture gothique et se dote de vitraux. Souvent placée à l'ouest, cet élément architectural a une symbolique solaire.
Saurez-vous décrypter le motif de la nouvelle rose dans la structure du dessin? On peut voir le signe de l'infini du nœud. On le retrouve beaucoup dans mon travail, mais aussi dans l'iconographie religieuse, comme les enluminures et les vitraux romans, explique Jean-Michel Autoniel. Les épines de cette ligne infinie rappellent la rose, mais peuvent aussi évoquer la couronne du Christ. Les 12 cercles rouges symbolisent les 12 langues de feu des apôtres à la Pentecôte. Et au centre, on retrouve le nœud borroméen.
Direction, l'agence Evelyne. Texte, Paul Perrier. Illustration, Célia Gazal. Merci à la direction du patrimoine.